sûr des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
Toute ma vie, j'ai couru envers un idéal qui était de comprendre la science. Je me suis bien amusé.
La pure connaissance scientifique.
La tête. Le très gros problème qu'on a sur les médias, c'est que le temps de parole n'est pas suffisant pour exprimer la pensée.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Température 37,6.
Bonjour à tous, en route pour une nouvelle Tête au carré. Violaine Ballet réalise l'émission et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'astrophysicien Trinh Xuân Thuan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de passage en France à l'occasion de la sortie de votre dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles qui sort aux éditions Plon Fayard. Vous êtes astrophysicien, spécialiste de l'astronomie extragalactique et professeur à l'université de Virginie aux États-Unis. Le dictionnaire qu'on va découvrir ouvre une fenêtre très vaste sur l'univers qui nous entoure. C'est d'ailleurs une véritable gageure, hein, vous l'écrivez vous-même, que de publier un ouvrage sur un domaine aussi vaste. Mais comme il s'agit d'un dictionnaire amoureux, vous avez pu développer les sujets qui vous passionnaient. On va donc explorer ensemble quelques-unes des entrées du livre. Et ce sera l'occasion de nous parler, entre autres, des balais cosmiques, de la masse noire, des pulsars, de la beauté, de l'unité de l'univers. Et puis également un thème très important et qui vous est cher, celui de la science et de la spiritualité. Les auditeurs vont nous rejoindre, Trinh Xuân Thuan, avec déjà des courriels qui arrivent pour vous sur le site de la Tête au Carré, franceinter.com. Et je vous retrouve dans un instant. Le dossier a été préparé par Chantal Le Montagnier avec Lucie Sarfati et Irène Menahem.
Alors,
revue de presse.
Tu peux envoyer la revue de presse
dans la Tête au Carré.
Pierre Bienveau nous apprend dans La Croix aujourd'hui qu'un médicament préventif pourrait permettre une réduction de 30% des cas de paludisme chez les nourrissons. Alors que toutes les 30 secondes, un enfant meurt de cette maladie dans le monde, une étude publiée hier par le site internet de la revue The Lancet suscite un nouvel espoir en indiquant qu'une utilisation à large échelle de ce médicament pourrait éviter chaque année la survenue de 6 millions de cas de paludisme chez des enfants en bas âge. Déjà utilisé chez les femmes enceintes et dans les zones fortement touchées par le paludisme, ce médicament, appelé la sulfadoxine pyrimétamine, n'est pas nouveau, ayant remarqué que son utilisation pendant la grossesse permettait de réduire de plus de 50% les infections placentaires et les naissances de petits pois. Le consortium, qui regroupe une vingtaine d'organismes de recherche internationaux, a eu l'idée de tester ce médicament sur 8000 nourrissons de moins d'un an. Et c'est là que les chercheurs ont constaté cette réduction de 30% des cas de paludisme durant la première année de vie. Pour l'instant, le médicament n'est utilisé que dans quelques pays africains, mais selon l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, il serait intéressant de généraliser le recours à ce produit, d'autant plus qu'il est à la fois très bon marché et facile à administrer. Dans le Figaro, Yves Miseret s'est intéressé aux propriétaires d'animaux domestiques un peu particuliers, les serpents venimeux. D'après une loi votée en 2004, toute personne qui héberge des animaux dangereux tels que serpents, araignées ou scorpions doit obtenir un certificat de capacité délivré par les services vétérinaires. Dans les faits, pourtant, la plupart ignorent la loi. Et avec la mode de ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, il y a sans doute aujourd'hui beaucoup plus de serpents venimeux exotiques chez les particuliers que dans les vivarium, car sur internet ou sur des marchés de serpents exotiques tels qu'il en existe aux Pays-Bas ou en Allemagne, n'importe qui peut acheter des espèces de reptiles dangereux. Sur des forums d'amateurs, on peut par exemple commander un bébé crotal pour 15 euros seulement, bébé qui arrivera chez vous par la poste quelques jours après. Le problème, explique l'article du Figaro, c'est que parallèlement à cette folie des collectionneurs, le nombre d'envenimations ne cesse d'augmenter. Et ce qui inquiète le plus les toxicologues, eh bien ce sont les pratiques d'apprenti sorcier de certains collectionneurs. Quand l'animal est issu d'une hybridation effectuée par un amateur, il est impossible de pouvoir réagir car rien n'existe contre son venin. Si la banque d'antivenin d'Angers couvre actuellement les besoins pour une quarantaine d'espèces, le docteur Luc Deharaud du Centre Antipoison de Marseille explique que d'une façon générale, pour les serpents les plus rares, il n'existe pas d'antivenin fiable et sûr, mais des sérums mal purifiés et dangereux. De plus, la toxicité de certains venins semble avoir évolué en quelques quelques années, une étude menée par l'Institut Pasteur et le Centre Antipoison de Marseille a en effet révélé que dans le sud des Alpes, le venin de la vipère aspic, le plus venimeux de tous les serpents vivant dans notre métropole, contenait désormais deux nouvelles protéines neurotoxiques. L'origine de cette évolution est encore inexpliquée, mais depuis une vingtaine d'années, elle serait responsable de symptômes nouveaux comme des paralysies des yeux, des paupières et des lèvres. En conclusion, l'article indique que les morsures de serpents venimeux tuent chaque année dans le monde entre 20 000 et 94 000 personnes pour plus de 420 000 envenimations. Et puis enfin dans le Parisien aujourd'hui en France, Claire Chantry annonce qu'un nouveau sucre 100% naturel remplacera bientôt l'aspartame. Cet édulcorant au pouvoir très sucrant mais sans calories est extrait de la stevia, une plante d'Amérique du Sud. Son pouvoir sucrant est en effet 200 fois supérieur au sucre traditionnel. Depuis le récent arrêté interministériel autorisant son utilisation, l'industrie agroalimentaire est dans les starting blocks, note l'article. Chez Coca-Cola par exemple, la plupart des boissons allégées en sucre ou sans sucre passeront à la stevia d'ici quelques mois. Pour l'instant, la firme utilise des édulcorants de synthèse comme l'aspartame fabriqué à partir de deux acides aminés. La stevia devrait avoir du succès car, comme l'explique Florence Berglund, directrice marketing d'une société suédoise qui produit ce nouveau sucre, les édulcorants chimiques sont de plus en plus contestés et les consommateurs commencent à s'en méfier. Interviewée par la journaliste, la toxicologue Dominique Parent-Massin assure pourtant que d'un point de vue toxicologique, ce nouveau sucre ne présente pas d'intérêt par rapport à l'aspartame et précise que le fait qu'il soit naturel ne lui confère pas plus de qualité en termes de santé. La stevia est déjà courante aux États-Unis et au Japon, où elle représente 40% des édulcorants. Ayant reçu un avis favorable de l'Agence française de sécurité des aliments, elle devrait donc bientôt apparaître dans nos produits light et sur les étiquettes. Vous pourrez l'identifier sous le nom de ribodioside A.
J'ai des volcans de colère, une mer de la tranquillité, des rivières de larmes amères, un rire à fleurir des vallées. J'ai des jardins de tendresse, des recoins de baisers volés, des falaises au bord de l'ivresse, des regrets qui font la marée. Panorama, viens, viens, je t'attends dans mon panorama. J'ai des souvenirs en cascade, une île dans la solitude, de l'insouciance en promenade. Vague à l'âme dans les Bermudes, j'ai des déserts paradisiaques et des enfers de volupté, un monstre noir au fond d'un lac et l'ironie dans un bosquet. Viens, viens dans mon panorama. Dans mon panorama, j'ai la mémoire en acropole, une réserve naturelle, un désespoir au-dessus des pôles et l'espérance au pied du ciel. J'ai un océan à franchir pour un continent inconnu. Es-tu prêt à le découvrir? Le regard vierge et les mains nues. Le regard vierge et les mains nues. Le regard vierge et les mains nues. Thank you.
Panorama, extrait de son dernier album qui sortira le 12 octobre prochain, c'est Kent sur France Inter.
La tête.
Je m'interroge, mais je me dis, mais pourquoi faire ?
La tête.
C'est à partir de là que commencent les questions.
Pourquoi faire ?
Désolé, mais les questions se posent uniquement par écrit.
La tête au carré. Vos messages, vos réactions sur franceinter.com.
Et je suis cet après-midi avec l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, à l'occasion donc de la parution de ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles qui sort aux éditions Plomb Fayard. Donc vous avez pu vous échapper de votre université de Virginie aux États-Unis.
Oui, quelques brefs jours à Paris pour parler du livre.
Alors avant de découvrir justement quelques-unes des nombreuses entrées de ce livre qui fait plus de 1000 pages, il y a à peu près 250 entrées, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, de votre métier, de la façon dont vous êtes devenu astrophysicien et spécialiste, je le disais, de l'astronomie extragalactique. Vous êtes né donc à Hanoï au Vietnam. Est-ce que vous conservez de votre pays un souvenir qui a trait justement au ciel et aux étoiles et qui aurait pu être un événement déclencheur de votre futur parcours ?
En fait, ma passion pour l'astronomie n'a pas commencé au Vietnam, mais aux États-Unis. En fait, enfant, j'étais surtout intéressé par la physique. J'étais très curieux. Je me demandais toujours comment les choses fonctionnaient. Et pour moi, c'était la physique qui était la science fondamentale pour répondre à ces questions. Et puis, quand je suis parti aux États-Unis, après mon bac, donc français au lycée français de Saigon, c'est là où j'ai découvert l'astronomie parce que je suis allé au Caltech, California Institute of Technology, une grande université scientifique américaine qui avait le plus grand télescope du monde à ce moment-là, le Mont Palomar, au Mont Palomar, un télescope de 5 mètres de diamètre, donc qui regardait le plus loin dans l'univers. Et vous voyez un jeune homme de 19 ans qui cherchait un sujet d'étude, quand il peut regarder plus loin dans l'univers avec le plus grand télescope du monde, ça ne fait que... c'est pourquoi que je suis tombé en quelque sorte dans la marmite de l'astronomie.
Ouais, donc vous avez été en contact très tôt avec la langue française.
Tout à fait. Depuis l'école maternelle.
C'est ça. Et vous avez passé un bac de mathématiques élémentaires. Est-ce qu'à un moment, vous avez été tenté de vous diriger plutôt vers la littérature et la philosophie plutôt que vers les mathématiques ?
Oui, c'est vrai que j'hésitais parce que j'étais très bon en littérature, en philosophie aussi et en mathématiques en même temps. J'ai fait les concours généraux dans les deux d'ailleurs. Mais finalement, bon, je me disais quand même, la science a un langage très précis et j'aimais bien les mathématiques aussi. Et donc, c'est pourquoi je me suis dirigé vers les sciences.
Ouais, mais finalement, vous avez toujours mené les deux de front. Hein.
C'est vrai. Vous le voyez dans mon écriture, ce biais littéraire, philosophique, métaphysique transparaît toujours à travers mes écrits scientifiques aussi. Pour le grand public, hein, bien sûr, pas dans mes articles scientifiques, mais pour le grand public.
Ouais, vous écrivez toujours en français, vos ouvrages ?
Tout à fait. C'est la langue où je sens le mieux la musicalité des mots. J'ai grandi avec les penseurs, les philosophes français, et donc quand j'ai besoin d'une référence littéraire, tout ça, c'est toujours leur écrit qui me vient à l'esprit.
Donc aux États-Unis, en 1994, vous obtenez un PhD en astrophysique.
1974.
Oui, c'est l'équivalent du doctorat pour la France.
C'est ça, doctorat, c'est ça, à Princeton, c'est ça.
Qui est votre directeur de thèse ?
Lyman Spitzer, un très très grand astrophysicien, d'ailleurs le père du télescope Hubble, d'ailleurs. C'est lui qui a conçu le télescope Hubble, vous savez, déjà en 1946, bien avant Sputnik, hein, 11 ans avant Sputnik, il avait déjà pensé qu'un télescope au-dessus de l'atmosphère terrestre pouvait nous révéler des choses extraordinaires sur le cosmos, et en fait, il a lutté pour ça, et donc il a été récompensé. Maintenant, Hubble nous...
Et on en parle tout le temps, Hubble, hein ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, les astronautes sont venus le réparer, et maintenant, les dernières images que vous pouvez d'ailleurs télécharger directement à partir du net sont extraordinaires, d'une beauté, d'une précision, d'une poésie extraordinaire.
Ouais, alors, parlez-nous de ces images, justement.
Alors, donc,
les dernières qu'on a reçues de la NASA montrent un papillon incroyable.
Donc, oui, tout à fait. Donc, une nébuleuse. Ce n'est pas un vrai papillon, mais bien sûr, c'est une nébuleuse. Donc, un nuage de gaz qui en forme d'aile de papillon, vous voyez, et donc qui va donc en s'effondrant donner lieu à des étoiles jaunes, ce qu'on appelle une pouponnière stellaire, des
étoiles bébés. Parce que c'est quoi ? Ça correspond à la mort d'une étoile géante, c'est ça, la formation de ce papillon ?
Non, ça, je pense que c'est plutôt une nébuleuse de gaz où les étoiles naissent et les étoiles jeunes naissent. Donc, quand ça va s'effondrer, les réactions nucléaires vont se déclencher. Et puis, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse, une pouponnière stellaire.
Ouais. Et quand on parle de gaz qui s'échappe, ce sont des quantités incroyables.
Oui.
Des températures aussi extraordinaires.
Tout à fait. Donc il y a un gaz qui s'effondre pour former des étoiles. Et puis aussi, les étoiles, comme les êtres humains, vous savez, vivent leur vie et meurent. Et des étoiles comme de la masse du Soleil, par exemple, vont... Leur corps va s'effondrer, ce qu'on appelle une naine blanche,
oui.
Et puis donc éjecter des gaz, justement, donc l'enveloppe. Mais les étoiles plus massives explosent carrément, ce qu'on appelle des supernovas. Donc vraiment, ça va désintégrer complètement l'étoile, en fait.
Oui.
Et au centre va se trouver soit une étoile à neutrons, donc un pulsar, ou un trou noir.
Oui. J'ai lu que dans la légende, justement, de ces photos, que les gaz étaient chauffés à près de 20 000 degrés Celsius, hein, et qu'ils s'échappaient justement à une vitesse absolument
vertigineuse.
Trixon Tuan, vous menez de front l'enseignement et la recherche. C'est important, ça aussi, pour vous, de rester en contact avec les étudiants?
Oui. L'enseignement, enfin, la transmission du savoir est très, très important, parce que pour moi, c'est eux qui vont continuer la recherche, parce que notre génération ne va pas répondre à toutes les questions de l'univers. Donc c'est d'abord éveiller, d'abord l'intérêt pour la science. Et puis, bon, mon cours, c'est l'astronomie pour les poètes, donc c'est pour les littéraires.
L'astronomie pour les poètes.
Voilà.
Ça, c'est votre cours.
Voilà. Ouais. Alors, les poètes, c'est vraiment pas un cours de poésie. Un poète, pour moi, c'est non scientifique, donc pour les littéraires, des gens qui vont se destiner à la philosophie, à la littérature, au business, etc. Et donc, pour moi, c'est primordial. Donc, de leur faire comprendre pourquoi la science est intéressante, même pour des gens qui ne vont pas faire la science. Vous voyez,
Vous formez l'honnête homme au sens du philosophe du 18e, c'est ça aussi.
Du 17 et 18e, c'est exact. Et donc, j'aimerais donc ces gens qui vont devenir des décideurs dans la société, donc ont une appréciation du ciel et des étoiles, et puis aussi peut-être des conséquences métaphysiques, vous voyez, la vision de l'homme dans l'univers.
Oui. On va écouter justement un extrait d'une œuvre de Lucrèce, ça s'appelle De la nature. Lucrèce, qui était un poète, philosophe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ,
oui,
et qui décrit justement le spectacle de la nuit qui tombe progressivement sur la mer. Ça devrait vous plaire.
J'ai bien regardé comment cela se passait. Quand le soleil est couché, c'est la mer qui s'assombrit. Le ciel conserve encore longtemps une grande clarté. La nuit monte de l'eau et encercle lentement tout l'horizon. Puis le ciel s'assombrit à son tour avec lenteur. Il y a un moment où il fait tout noir. Puis le noir de l'eau et le noir du ciel reculent. Il s'établit une transparence éburnéenne, avec des reflets dans l'eau et des poches obscures au ciel. Puis le sac à charbon sous la croix du sud, puis la Voie lactée.
Extrait de l'œuvre de Lucrèce, pour parler évidemment de poésie avec vous, Trixon Tuan, puisque vous insistez beaucoup dans ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles sur l'importance d'une science qui serait plus humaniste et qui justement s'intéresserait aussi à la beauté.
Oui.
Et à la poésie.
Tout à fait. Parce qu'on pense souvent, vous savez, à la science comme sujet aride où la science est dépourvue de toute émotion. Mais pourtant, l'astronome qui regarde le cosmos, pour moi, c'est d'abord l'émotionnel. Quand je fais mon télescope et que je vois une image d'une galaxie lointaine se profiler sur mon écran de télévision, parce que je ne regarde pas directement plus à travers mon télescope maintenant, mais par électronique interposée.
Oui.
Ça me fait toujours frémir. Moi, je suis dans business, en quelque sorte, depuis 30 ans maintenant, mais cette image me fait toujours frémir d'émotion, parce que en pensant que cette lumière que je reçois maintenant, mon télescope a voyagé des milliards d'années, peut-être même elle est partie avant même que les atomes de mon corps soit fait dans quelques étoiles. Vous voyez, donc c'est un immense sentiment de connexion cosmique. Et donc, c'est toujours d'abord l'émotion. Et puis, l'intellect vient après. Bien sûr, je recueille cette lumière, je l'analyse pour découvrir comment la nature marche. J'écris mon article scientifique. Donc, l'intellect suit toujours l'émotion, mais c'est d'abord l'émotion.
Oui.
Et puis, le sentiment de beauté, d'harmonie, d'organisation de l'univers qui m'éblouit toujours.
Ouais. Est-ce que justement cette émotion que vous avez vous accompagne en permanence dans votre vie? Est-ce que ça vous aide aussi à relativiser la place que nous avons, nous, ici sur Terre?
Oui, c'est tout à fait. Quand on... On pense toujours à toujours des milliards d'années, vous savez, c'est un cosmos si large. Vraiment, notre Terre n'est qu'un petit grain de sable dans le vaste océan cosmique. Et puis, donc, ça relativise vraiment donc notre place. Mais si c'est dit, je m'intègre dans la société. Je trouve que, bien sûr, les problèmes quotidiens des gens, bien sûr, sont importants pour leur propre vie. Il ne faut pas non plus minimiser les problèmes que les gens traversent. Mais bon, ça donne un sentiment de relativité quand on regarde le cosmos. Ça, c'est certain.
À quel moment, finalement, de l'histoire de l'astronomie, est-ce que vous auriez aimé être Trinh San Thuan ? Dans les grands moments de découverte et de révolution de cette discipline?
Oh, je pense que je suis très, très bien là où je suis maintenant, dans cette période contemporaine, parce que justement, vous savez, l'astronomie avance beaucoup à cause de la technologie. Et maintenant, on a une technologie formidable. On a Hubble, on peut mettre des télescopes en orbite. On a toutes les sortes de lumières du spectre électromagnétique. Donc, il y a des télescopes X, des télescopes gamma, des télescopes ultraviolets, des télescopes radio, des télescopes infrarouges. Donc, on peut voir l'univers dans toute sa glorieuse beauté. C'est extraordinaire. Donc, je suis très, très content d'être maintenant avec cette technologie et l'ordinateur formidable. Les ordinateurs aussi, l'Internet aussi, nous permet de travailler avec beaucoup d'efficacité.
Ouais. Est-ce que vous auriez aimé être derrière l'épaule de Galilée qui, lui aussi, en son temps, avait finalement son télescope Hubble?
Voilà, ça, c'est le premier bond technologique, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, on célèbre cette année le 400e anniversaire de l'instant où il a premier braqué un télescope vers le ciel.
Mais c'est vrai. Ça se déplace. Vous avez raison, Galilée.
C'est un satellite de Jupiter, Éminence.
Jupiter est un satellite?
Oui.
Il y en a un second, de couleur brune. Ah, il paraît immobile, celui-là. C'est extraordinaire.
C'est la planète Jupiter que je vois, rayée comme un tigre.
En effet.
Ces couleurs rougeâtres, brunâtres, et là on dirait des nuages, comme autour de la Terre.
Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. Deux satellites à Jupiter, l'un qui bouge, l'autre immobile.
En réalité, Éminence, il y a non pas deux, mais quatre satellites autour de Jupiter.
Quatre satellites autour de Jupiter. Et c'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous ça?
Je ne l'explique pas, Éminence. Je le constate. L'observation précède toujours l'explication. C'est vrai, ces satellites de Jupiter me fascinent. Quatre petits astres tournant autour d'un gros.
Oui, je vous comprends. Le ciel est à l'image de la Terre.
Oui, ou bien le contraire.
Et c'est d'une beauté extrême. À chaque instant, on peut s'attendre à voir le Seigneur se manifester.
Alors Jean-Pierre Mariel dans le rôle du pape Urbain VIII, Claude Rich dans celui de Galilée, avec ce téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu, 1609, donc ce moment d'observation qui a été une révolution mais extraordinaire quand même à l'époque.
Extraordinaire. Hein. Et vous savez, ces découvertes des quatre satellites autour de Jupiter aussi, c'est une très très grande découverte. Parce qu'en fait, vous voyez, ça convainc Galilée qu'en fait, la Terre n'est pas au centre du monde. Parce que il vivait dans une époque où il y avait un grand débat où est-ce que c'est la Terre qui est au centre de tout, ce qu'on appelle l'univers géocentrique, ou c'est le Soleil qui est au centre du système solaire, un système héliocentrique. Et ça le convainc. Donc, il découvre des satellites qui tournent autour de Jupiter qu'en fait, la Terre n'est pas le centre de tout. Vous voyez, donc, il clame haut et fort son soutien pour le système copernicien, parce que c'est Copernic qui a le premier proposé le système héliocentrique. Et donc, ça lui a valu bien des problèmes,
bien sûr.
Parce
que là, le pape, il est enthousiaste, mais ça n'a pas duré très longtemps, quand même, du côté de la religion. Hein.
Non. Parce que, bon, vous savez, c'est une grande hérésie de dire que la Terre n'est pas au centre du monde, que l'univers, pour l'Église, est fait pour l'homme seulement. Et donc, Galilée, donc, a été, bien sûr, traduit devant l'Inquisition, et puis on lui a obligé de renier publiquement que la Terre tourne autour du Soleil.
Alors évidemment, c'est une façon de concevoir l'humain aussi qui révolutionne la pensée, hein, parce que notre place, pour le coup, dans l'univers est ridicule.
Tout à fait. Vous voyez, après donc, la révolution copernicienne, on pensait que c'était notre Terre n'est pas le centre du monde, on pensait que notre astre, le Soleil, était au centre de la Voie lactée. Patatras, les astronomes découvrent que c'est une simple étoile de banlieue, un peu plus de la moitié vers le bord de la Voie lactée.
Une banalité incroyable. Hein.
Voilà. Donc, parmi 100 milliards d'étoiles de Soleil dans notre Voie lactée. Et puis donc, à la fin du 19e siècle, le débat rageait. Est-ce que l'univers s'arrêtait à notre Voie lactée ou il y a encore d'autres Voies lactées autour enfin, au-delà de notre voie lactée, des univers îles, comme le philosophe allemand Emmanuel Kant les nommait. Et donc, ce problème était résolu par Edwin Hubble, donc l'astronome américain d'après lequel le télescope a été nommé. Et donc, lui découvre donc que Andromède, par exemple, la galaxie la plus proche semblable à la Voie lactée à quelques 2 millions d'années-lumière. Donc, bien au-delà des 100 000 années-lumière de notre Voie lactée. Donc, tout d'un coup, les portes de l'univers extragalactique s'ouvraient toutes grandes. Et l'univers, on sait maintenant que l'univers est peuplé d'une centaine de milliards de voies lactées, chacune contenant 100 milliards de soleils.
On parlera de votre découverte, Trinxantoine, avec cette galaxie IsWiki 18. Hein, parce oui, que alors, ça aussi, ça a été, j'imagine, un grand moment de votre carrière. On dira pourquoi dans quelques instants. Des auditeurs, ils sont nombreux, nous demandent où on peut trouver les images prises par le télescope Hubble, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, donc il faut aller sur le site du télescope, ce qu'on appelle de l'Institut de télescope spatial, donc Science Telescope Space Institute, donc STSCI.edu.
Il est en lien, je crois, déjà sur la tête au carré pour accéder à ces
images. Bien,
il
faut absolument les voir parce que les dernières photos de Hubble sont extraordinaires.
Ouais. Trinxantoine, vous restez avec nous. D'autres mails arrivent sur franceinter.com.
Je la vois. Ah, énorme. Il y a 3 étoiles à côté en plus. Un peu jaune. Gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war. The TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war. The TV jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Police on the old, play some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Police on the old, play some camera lens. Go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
Get around town avec Revolver.
3, 2, 1, lancement de la navette.
Vas-y, papa.
Monsieur, l'indice d'écoute pour ce lancement est le plus haut depuis 10 ans.
Hey! Et comment se comporte la navette?
Je ne sais pas. Ces appareils ne servent qu'à mesurer l'indice d'écoute.
C'est magnifique. C'est le spectacle le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Source de vie, notre mère à tous. Hey, regardez les mecs que j'ai passé en douce.
Oh merde, non!
Hein?
Ça va encrasser les instruments. En plus, c'est des allégés.
Je vais régler le problème.
Oh. Homer Simpson en train de manger des chips dans la navette spatiale. Voilà une image pour regarder la Terre vue du ciel, Trịnh Xuân Thoan. Oui. Est-ce que vous aimeriez monter dans une navette aussi un jour? Parce que finalement, vous n'observez votre ciel, cet univers immense, que depuis la Terre. Est-ce que vous aimeriez
aller
un petit peu plus haut?
Ce sera très bien si je pourrais le faire un jour. Parce que je pense que l'image la plus émouvante du XXe siècle, c'est vraiment l'image de notre Terre bleue, couverte de nuages, flottant dans le noir, fragile, unique. Et donc, c'est ça qui, je pense, a déclenché d'ailleurs probablement le mouvement écologique et puis donc notre souci pour préserver cette belle planète qui est notre maison.
Je vous propose d'entendre Jean-François Clairvoy, le spationaute français, qui décrivait justement dans La Tête au Carré en 2007 le spectacle de la Terre dont vous parliez à bord de la navette Atlantis en 1994.
C'est un vol extraordinaire pour la vue de la Terre. Je me souviens d'images d'ouragans, de volcans qui rentrent en éruption, le Sakurajima, l'ouragan Florence, l'Himalaya. Quand on voit l'Himalaya, on se dit « waouh, c'est puissant quand même hein. ». Ce que la nature a été capable de faire par la tectonique des plaques, les courants marins, le reflet de la Lune sur la Méditerranée, enfin des très très belles images, des très beaux souvenirs.
Voilà, Jean-François Clairvoy qui, lui, a eu la chance de pouvoir vivre et ressentir l'espace. Alors, vous le dites bien, justement, dans ce dictionnaire amoureux, Trịnh Xuân Thoan, c'est que l'homme, à la fois, était capable de choses extraordinaires, hein, technologiques, celle d'aller d'abord dans l'espace, et puis en même temps, sa capacité d'autodestruction.
Oui, malheureusement, l'intelligence a double tranchant. Maintenant, il a la capacité de détruire sa planète, d'abord par son arsenal nucléaire, et aussi, malheureusement... en relâchant des tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère et donc en provoquant donc un réchauffement global qui malheureusement va perturber donc les cycles naturels et détruire beaucoup d'espèces aussi, parce que leur environnement naturel est perturbé.
Alors, à la fin de l'année 2004, grâce à des observations faites avec Hubble, justement, vous avez découvert la plus jeune galaxie connue de l'univers. Alors, son nom, c'est 1-Zwicky-18,
oui.
En français. Bon.
Oui, c'est ça. Donc, c'est une galaxie
comment
naine.
Comment vous êtes tombé sur cette galaxie naine?
Ah, voilà. Donc, mon sujet, c'est vraiment la formation des galaxies. Hein. Comment les galaxies et comme notre Voie lactée se sont formées. Et donc, moi, ce que je crois, ce sont des naines, des galaxies naines qui s'assemblent ensemble pour former une grande galaxie. Donc, ces galaxies naines sont les briques de l'univers. Et donc, moi, je voulais étudier les briques de l'univers. Et ainsi que 18, donc, c'est une galaxie qui est... vous savez, la plupart des galaxies se forment 1 milliard d'années après le Big Bang.
Oui, mais, donc c'est une vieille histoire quand
oui,
même.
Oui, c'est une vieille histoire. Presque toutes les galaxies sont très vieilles. Mais 1-Zwicky-18 est une galaxie bébé parce que les plus vieilles étoiles dans cette galaxie ne se sont formées qu'il y a 1 milliard d'années. Donc, le gaz, elle est composée de gaz, d'hydrogène et d'hélium qui sont faits, en fait, dans les 3 premières minutes du Big Bang. C'est ce qu'on appelle des galaxies primordiales presque.
Oui.
Et donc, en les étudiant, je peux étudier donc, la composition de l'hélium et de l'hydrogène pendant les 3 premières minutes de l'univers et puis donc avoir une galaxie jeune, une galaxie bébé pour savoir, pour comprendre comment l'origine des galaxies en quelque sorte.
Ouais.
Donc pour moi, c'est très important.
Et donc, ce qui en fait la plus jeune galaxie connue actuellement?
Tout à fait.
1 milliard d'années, hein, c'est ça?
1 milliard d'années, c'est ça. Donc les plus vieilles étoiles de cette galaxie ne se sont faites qu'il y a 1 milliard d'années au lieu de 13 milliards d'années comme toutes les autres galaxies.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait observer des galaxies en train de se former sous nos yeux?
Justement, donc 1-Zwicky-18 est en train de se former sous nos yeux. Pour les autres, il faut remonter le temps. Donc, vous voyez, il faut donc des télescopes qui voient très, très loin. Parce que voir loin en astronomie, c'est voir tôt. Et donc, éventuellement, on n'a pas encore les plus grands télescopes. Même Hubble ne peut remonter le temps que de l'ordre de 12 milliards d'années ou même 10 milliards d'années. Mais si on peut remonter le temps de, disons, 13 milliards d'années, vous voyez, on peut donc voir la naissance des galaxies en direct. Et donc, c'est ce qu'on espère faire avec... le successeur de Hubble qui ne sera, je pense, que construit ou lancé dans l'ordre de 2015, ouais, de 2020.
Donc, télescope ultra puissant, évidemment, qui risque de livrer des découvertes inédites.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, l'univers regorge toujours de secrets que l'imagination des hommes n'a pas encore pensé, ouais. En fait. Donc, c'est toujours, il y a toujours des découvertes. Chaque fois qu'un instrument nouveau a été braqué vers le ciel, on fait d'énormes découvertes.
Axel demande par courriel, comment vous concevez le vide ?
Ah, le vide, vous savez, ça c'est le vide de physique n'est pas le vide dépourvu de tout comme ce que l'homme de la rue le pense. Mais en fait, donc le vide, on pense d'ailleurs que l'univers est parti d'un vide, mais un vide rempli d'énergie. Vous voyez, le vide
donc, est rempli d'énergie. Donc il y a 13,7 milliards d'années, ce serait cette idée-là.
Voilà, une vide. Et puis, donc, il y a des fluctuations quantiques partout. Et puis, une de ces fluctuations quantiques, il y a eu une grande explosion, un Big Bang, donc, mm-hmm. Et donc, il a donné donc naissance à notre univers. Donc, il y a donc une théorie donc, qui dit que notre univers peut être une bulle parmi une infinité d'autres bulles dans un méta-univers, vous voyez.
Ah oui, donc il y aurait plusieurs univers.
Oui, univers parallèles. Ouais. Oui, ça c'est une théorie, parce qu'il y a plus de fluctuations quantiques. Le problème, c'est que, bien sûr, il n'y a pas d'observation directe d'autres univers. On peut, avec nos télescopes, observer notre univers seulement, mais pas d'autres univers.
Quelle est l'idée, vous, à laquelle vous croyez, Trinks Antoine? C'est qu'il n'y a qu'un univers ou il y en a plusieurs?
Je parie. De nouveau, la science ne peut pas distinguer entre les deux. Hein. Donc c'est un pari ouais. À la Pascal, en
mais
fait.
Mais ça, on a le droit.
On a le droit, bien sûr, parce qu'un scientifique est un être humain aussi. Et moi, je parie plutôt sur un univers unique. Donc, s'il y a un univers unique, on va parler du règlement très, très précis de cet univers. Et donc, ça suppose peut-être ce que j'appelle un principe créateur.
Mmh. Et alors, notre vie, nous, petits terriens dans cet univers, c'est le plus pur des hasards ou c'est une réunion de
donc, justement,
d'éléments qui ont favorisé...
Voilà. Donc, l'univers, on sait, et ça, ce point, tous les scientifiques sont d'accord, l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour que les étoiles se forment. Et je m'explique, l'univers toutes les propriétés de l'univers sont gouvernées par ce qu'on appelle des constantes physiques. Il y en a une quinzaine environ, hein, des nombres comme ça qu'on mesure dans la nature, mais dont on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi elles ont la valeur qu'elles ont. Par exemple, la constante de Planck, qui est très petite, donc qui dicte la taille des atomes, la constante de gravité, qui dicte l'intensité de la force de gravité, la masse de l'électron, la masse des protons, la charge de l'électron, en fait, la masse et la charge de toutes les particules élémentaires. Donc, il y a une quinzaine comme ça de constantes physiques, et puis ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire, par exemple, le taux d'expansion initiale de l'univers ou la masse noire, qu'elle soit exotique ou ordinaire, ou l'énergie noire qu'il y avait au début. Donc, tout ça détermine les propriétés de l'univers telles qu'on l'observe. Et on s'est aperçu qu'il y a eu un réglage extraordinaire pour que ces constantes physiques, ces conditions initiales, permettent donc l'avènement des étoiles. Parce que sans étoiles, nous ne serons pas là pour en parler. Parce que le Big Bang ne fabriquait justement que l'hydrogène et l'hélium. Et ça, ce n'est pas assez complexe pour fabriquer la complexité et certainement pas la vie et la conscience.
Ouais. Alors, vous parlez de l'unité de l'univers, vous parlez de ce réglage, d'une précision à couper le souffle.
Tout à fait. Appelle le principe anthropique.
Voilà, c'est ça. C'est la question de Yannick qui est à Lausanne. Justement, il voulait que vous en parliez.
Oui.
Ça tombe bien, vous venez de l'évoquer.
Donc, anthropos, comme dans anthropologie. Ce réglage extraordinaire donc, permet les étoiles. Les étoiles fabriquent les éléments lourds qui permettent donc l'avènement de la vie et la conscience. Mmh. Alors justement, on revient dans ce pari pascalien dont je parlais tout à l'heure. Alors comment expliquer ce réglage? Alors soit on peut invoquer le hasard.
Oui.
Le hasard, donc, mais à ce moment-là, il faut invoquer... Donc le réglage est à 10 puissance moins 60 près, hein, c'est-à-dire une précision qui il faut 60 décimales avec une telle précision. Et donc, il faut, si c'est le hasard, il faut fabriquer 10 puissance 60 univers. Donc, par hasard, donc, notre univers a eu la combinaison gagnante de constantes physiques et des conditions initiales, et nous sommes le gros lot en quelque sorte.
Oui.
Mais tous les autres ont une combinaison perdante de constantes physiques et de conditions initiales, et donc ils sont vides et stériles. Donc, Donc, par hasard, nous sommes dans l'univers qui a, en quelque sorte, gagné le gros lot.
Vous y croyez au hasard?
Moi, je ne crois pas, justement. Donc,
à quoi vous croyez?
Donc, je pense plutôt à une nécessité, justement. Donc, dans l'hypothèse d'un seul univers, il faut quelque chose qui règle ça. Et donc, bon, étant bouddhiste, je n'ai pas de concept de Dieu, mais je pars d'un principe créateur qui est réglé dès la première fraction du second du Big Bang, ses constantes physiques et les conditions initiales. Alors, je rejette l'hypothèse du hasard parce que cette hypothèse du hasard postule une infinité d'univers. Et ces univers sont tous inobservables parce que avec nos télescopes, avec Hubble, on peut seulement observer notre univers, mais pas d'autres univers. Donc, postuler une infinité d'autres univers, pour moi, relève aussi de la métaphysique.
Ouais. Alors, c'est difficile à entendre pour des Français qui sont très appuyés sur la laïcité, justement. Ce mélange entre la science, la spiritualité.
C'est vrai.
D'ailleurs, il y a un courriel en ce sens. Philippe nous dit ceci. Mélanger dans votre livre de vulgarisation des considérations scientifiques et un discours métaphysique et religieux, relève-t-il d'une escroquerie intellectuelle? N'est-ce pas dangereux dans la démarche de transmettre une culture scientifique rigoureuse vers le grand public, alors que les dérives créationnistes abondantes aux États-Unis commencent à se répandre en Europe et en France?
Oui, le créationnisme est un danger. Mais bien sûr, moi je fais ma science correctement. Je ne rejette pas Darwin, bien sûr. Je ne dis pas que l'univers a 4000 ans, comme les créationnistes disent. Non, j'accepte tout le verdict scientifique. Mais donc, et je fais ma science selon la méthode scientifique et je suis respecté par mes collègues et pairs. Mm-hmm. Et j'écris dans des revues spécialisées. Non, et je dis toujours dans mes ouvrages de vulgarisation que quand je m'aventure sur des terrains au-delà de la science métaphysique, c'est toujours en tant que personne humaine, en tant que pari personnel, pari pascalien personnel. Oui. Mais ce n'est pas la science qui démontre.
Est-ce que la religion, votre croyance, peut influencer votre travail scientifique ou votre perception de votre travail de scientifique?
Je pense que, bien sûr, il y a une perception, mais la science elle-même n'a pas besoin de spiritualité, parce qu'elle se suffit très bien à elle-même. Que vous soyez athée, agnostique, que vous soyez bouddhiste, chrétien, musulman, vous pouvez faire la science de façon extrêmement précise et rigoureuse.
Mais vous rejoignez Einstein, finalement. Il y a une entrée aussi sur Einstein dans votre
tout
livre.
À fait.
Le dieu d'Einstein, c'est à peu près ce que
c'est
vous nous décrivez.
Ce que dit. Oui, c'est la loi de la nature.
Voilà, parce que lui, il a rejeté l'autorité dans le domaine scientifique.
Oui,
il s'est montré assez rebelle dans le domaine spirituel.
C'est ça.
Donc la science, à un moment, l'a éloigné du judaïsme. Et quand on lui posait la question de la création de l'univers, qu'est-ce qu'il répondait?
Justement, donc, il disait, justement, Dieu a réglé telle et telle chose. Il disait toujours, par exemple, des choses comme Dieu ne jouait pas au dé, parce qu'il ne croyait pas, vous savez, à la mécanique quantique, il y a une interprétation probabiliste des choses. Et donc, et d'ailleurs, à tel point que ses collègues lui disaient toujours, arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire, vous voyez. Mm-hmm. Mais pour lui, Dieu, ce n'est pas un Dieu personnel, hein, il faut préciser ça. C'est vraiment les lois physiques de la nature. Et moi, c'est mon même conception. Quand je vois la beauté et l'harmonie de l'univers, quand je vois les lois qui les règlent, c'est ça pour moi le principe créateur. Ce n'est pas un Dieu personnel. Donc, c'est une vision panthéiste à la Spinoza et à la Einstein.
C'est la religion cosmique.
Voilà, tout à fait. Ouais, exactement. Et c'est ce que Einstein dit aussi. Il appelle ça une religion cosmique.
Trinx Antoine, vous restez avec nous. D'autres messages pour vous. Et on poursuit la discussion autour de votre dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. American Woman avec Lenny Kravitz.
Regardez, ça y est.
Non, il n'y a pas de son. Tourne l'antenne.
La tête.
Et le report.
Tu sais sur quoi je travaille, Diane?
La tête.
Eh bien, il y a eu un petit incident au laboratoire.
C'est-tu le gars de la tête au carré, ça?
Ici Houston, quel est le problème?
Tu vas disparaître, tu seras invisible.
Sur France Inter.
C'est ça, oui.
Les commandes ne répondent plus. I repeat, the joystick is kaput.
L'astrophysicien Trinh Sanh-Tuan est avec nous pour ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles qui paraît chez Plon Fayard dans l'entrée sur la science et la sagesse. Vous citez en tout cas les enfants des étoiles, l'homme moderne qui a peut-être ressenti le plus intensément sa filiation cosmique quand il a vu pour la première fois les images émouvantes de notre planète bleue flottant dans l'immensité noire de l'espace, si belle et pourtant si fragile. Et vous citez le poète anglais William Blake.
Oui, c'est un poète que j'aime beaucoup. Parce que je tiens à dire que, vous savez, la science est un mode de connaissance pour apprendre le réel qui est très précis, qui a une méthode bien définie et qui nous permet justement de contrôler la nature et donc de l'exploiter en quelque sorte, vous voyez. Mais je pense que ce n'est pas le seul mode de connaissance. Et je pense que pour apprendre le réel, il y a d'autres moyens d'éclairage. Nous avons parlé de spiritualité tout à l'heure, mais la poésie aussi. Les grands poètes peuvent aussi nous renseigner sur le réel. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce poète du anglais, de William Blake, du 18e siècle. « To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower, whole infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. » Voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Vous voyez, il a écrit ça au 18e siècle. Et la science a découvert ça au 20e siècle. Parce que quand on voit un grain de sable, on voit tout l'univers. Pourquoi? Parce que, en fait, les atomes de silice qui forment le grain de sable sont fabriqués par des étoiles qui sont mortes, qui sont explosées. Donc, on voit toute l'histoire cosmique de l'évolution des étoiles dans ce grain de sable. Et donc, cette connexion cosmique, William Blake l'a déjà senti dans ce magnifique poème.
Simon, qui nous écoute à Caen, vous demande si les interprétations spirituelles des lois de la physique sont bien acceptées dans les milieux scientifiques.
Non, je dirais que je suis plutôt minoritaire de ce point de vue. Je crois qu'en France, à cause de la laïcité, justement...
à la laïcité.
je ne sais pas. et donc les gens sont plutôt réfractaires au dialogue entre science et religion.
Alors à cause de la laïcité.
Mais dans les pays anglo-saxons, là où je suis aux États-Unis, ou en Angleterre, c'est mieux accepté. Et d'ailleurs, je fais partie d'une association de scientifiques qui sont très, très connus. Hein, des prix Nobel, comme l'inventeur du laser, Charles Townes, par exemple. Donc, des gens qui sont extrêmement reconnus dans leur domaine, mais qui aussi ont une démarche spirituelle. Et donc, nous nous rassemblons pour discuter de ce genre de choses.
Ouais, donc, il y a des passerelles qui sont possibles, hein, vous le montrez.
Moi, je pense.
Entre le spirituel et la science.
Oui, je pense que c'est un éclairage différent. Alors, loin de moi de faire le mélange. Hein. Il ne faut pas mélanger les deux. Pour moi, ce n'est pas mélanger les deux. Pour moi, ce n'est pas valider, par exemple, la science par une spiritualité ou valider une spiritualité par la science. Parce que, par exemple, le bouddhiste n'a pas besoin de ça. Vous savez, il est né depuis 2500 ans. La science moderne n'est née qu'au 17e siècle. Elle change tout le temps. Donc, le bouddhiste n'a pas été validé par la science. Et moi, je veux la science fait son travail extrêmement bien sans aucune sorte de spiritualité. Donc, c'est vraiment des éclairages différents qui sont complémentaires. L'homme est un tout. L'homme est curieux, donc il est scientifique, mais aussi il a des besoins spirituels, des besoins poétiques, des besoins esthétiques. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est un tout. L'homme est un tout.
Olivier nous dit « J'ai le plus grand respect pour la science. Cependant, j'avoue garder une méfiance pour les disciples de la spiritualité. » Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est la spiritualité? Mais vous venez de le faire, hein, Trinh Saint Thuan, justement. Alors, ce message de Jérôme qui est à Metz. Dans votre livre, Trinh Saint Thuan, La mélodie secrète, vous comparez le formidable réglage des constantes cosmologiques, hein, vous le disiez tout à l'heure, ce réglage implacable, à l'œuvre d'un compositeur hors pair.
Oui.
Avec l'âge, est-ce que c'est toujours votre conviction?
Oui, hein. tout à fait. Pour moi, c'est toujours, il y a un réglage par ce principe créateur, ce principe panthéiste dont je parlais tout à l'heure.
Alors, puisque votre spécialité, c'est l'astronomie extra-galactique, Alexandre vous demande d'évoquer la première exoplanète extra-galactique découverte récemment dans la galaxie d'Andromède.
Oui, moi je pense que c'est un grand pas en avant, mais jusqu'ici, bien sûr, toutes les exoplanètes, donc les planètes en dehors des planètes de notre système solaire, ont été découvertes dans notre Voie lactée. Donc,
c'est l'approche banlieue, hein, finalement.
Oui, l'approche banlieue pour l'astronome. Oui, mais et donc Andromède, qui est à 2,3 millions d'années-lumière, découvrir une planète là, c'est un grand pas en avant. Mm-hmm. Et pour moi, en fait, c'est même pas étonnant parce que bon, vous voyez, étant donné l'universalité des lois physiques, il y aura des planètes partout. Donc, il y a 100 milliards d'étoiles dans une voie lactée. Et Andromède aussi, il y aura 100 milliards d'étoiles. Donc, c'est naturel qu'il y aura aussi des planètes solaires autour de ces 100 milliards d'étoiles dans Andromède.
Et sous-entendu de la vie ou pas? Parce que vous avez une entrée sur les extraterrestres dans ce livre aussi.
Oui, donc si le principe anthropique que je défends, vous voyez, que l'univers est réglé pour la vie et pour les étoiles d'abord et puis donc pour la vie et la conscience, je pense que l'univers est gros de la vie et de conscience. Donc si le principe anthropique est correct, je pense que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers.
Mm-hmm. Il y aura est-ce que nous sommes les seuls dans notre système solaire, déjà, pour commencer, a priori
Nous
pas?
Sommes les seuls êtres intelligents.
Alors,
des êtres vivants, des micro-organismes, on cherche encore.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de recherches sur Mars, par exemple, parce que la Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau courante, des océans, peut-être il y a 2 milliards d'années sur Mars. Et donc, qui dit eau, qui dit vie. Donc, c'est, d'après la vie que nous connaissons, parce que ça toujours un relent d'anthropomorphisme, bien sûr, parce que nous sommes la seule forme de vie que nous connaissons. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur Mars, s'il y a des micro-organismes, soit sous le ciel, sol martien, ou soit dans les calottes glaciaires sur Mars.
Et donc, en dehors de notre système solaire, pour vous, il ne fait aucun doute qu'un jour, nous allons découvrir des formes de vie, quelles qu'elles soient, hein, sans parler évidemment de bipèdes.
En science, c'est difficile de dire qu'il n'y a aucun doute, mais je dirais que la probabilité...
Il est raisonnable de penser que...
Est non nul de penser qu'il y a d'autres formes de vie et d'intelligence. Ce qui est intéressant, c'est l'intelligence. Donc, des gens qui ont une technologie nécessaire donc, pour peut-être avoir des vaisseaux spatiaux pour visiter d'autres planètes ou avoir des radiotélescopes, vous voyez, pour envoyer des signaux. Comme nous avons déjà envoyé un signal, par exemple, dans un amas globulaire dans notre Voie lactée, par exemple.
Donc, vous attendez quand même du président Obama qu'il poursuive les financements du
j'espère,
spatial.
J'attends beaucoup, bien sûr, mais vous savez, étant donné la grande crise économique que nous traversons maintenant, je ne sais pas, tout ça, je pense qu'il y aura malheureusement un retard peut-être d'une décennie sur tous ces programmes.
Merci infiniment, Trinh Saint Thuan, d'être revenu dans La Tête au Carré. On s'était vu
merci
il y a,
de m'avoir
il y a deux
de
ans
nouveau.
À peu près, avec ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles et qui paraît donc aux éditions Plon Fayard. Et bon retour aux États-Unis en fin de semaine.
Merci beaucoup.